Allez, place au grand témoin avec Louis Dauphren.
C'était en mars dernier, le 29 mars précisément, la reine Elisabeth II était apparue à l'abbaye de Westminster pour la dernière fois pour une cérémonie religieuse en hommage à son époux, le prince Philippe, mort près d'un an plus tôt à l'âge de 99 ans. On connaissait leur complicité. Elle était arrivée au bras de son fils Andrew, s'appuyant sur une canne et semblait, c'est vrai, assez frêle. À de nombreuses reprises et dans les grands moments de sa vie, y compris ses funérailles, donc, la reine d'Angleterre fréquentera ce haut lieu de la conscience britannique. Ce n'est pas un hasard, peut-être aussi, ou c'est une coïncidence si cela survient avec nos journées du patrimoine. Elle y fut demoiselle d'honneur dès 1934 au mariage de son oncle, prince George, avec la princesse Marina de Grèce et du Danemark. Il s'agissait du premier mariage royal retransmis à la radio. Et voilà que donc ses propres obsèques constituent un événement médiatique mondial. Pour en parler, Jean Duchesne, professeur émérite de chaire supérieure, spécialiste du monde anglo-saxon, qui a enseigné en classe préparatoire longtemps, qui a écrit aussi sur le monde anglo-saxon. Bonjour Jean.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes aussi associé évidemment à la revue Communio qui fêtera son demi-siècle cette année, en octobre aux États-Unis. Un mot justement sur cette revue qui a une image aussi, puis toute une histoire.
Donc, Communio est né en 1972, donc, de membres de la Commission théologique internationale qui ont voulu faire une revue qui soit véritablement fidèle au Concile, c'est-à-dire qui soit faite aussi par des laïcs, parce que la théologie n'est pas une discipline de spécialistes seulement, mais intéresse tout le monde, qui soit faite aussi par des femmes, et qui soit fait aussi, qui soit aussi décentralisé, en traitant les mêmes thèmes et en échangeant les articles, en laissant chaque revue libre de prendre ce qu'il pensait pourrait intéresser son public.
Alors pourquoi ça se passe aux États-Unis et pas en France, pas en Europe? C'est là-bas que le dynamisme,
les États-Unis sont simplement une des éditions de Communio, et comme chacun sait, eh bien c'est peut-être celle qui a le plus de moyens. Mais d'ailleurs, ce n'est pas l'édition américaine elle-même de Communio qui organise cela, bien qu'elle en soit participante. C'est une petite université du nord de l'État de New York.
Et c'est une revue qui vous a accompagné finalement tout au long de votre carrière universitaire, Jean Duchesne.
C'est plutôt moi qui ai essayé de la suivre. Voilà, parce que nous avons donc essayé aussi de faire ce n'est pas une revue, enfin, le titre montre bien qu'à une époque, disons, où les catholiques, déjà en ce temps-là, il y a 50 ans et encore maintenant, ont tendance à s'opposer et se diviser, bien l'accent doit être mis sur ce qui est commun, sur la communion et sur les dons qui sont partagés entre nous.
Y a-t-il une communion avec l'anglicanisme ?
Alors, il y a certainement une communion avec l'anglicanisme, comme avec toutes les autres dénominations chrétiennes. L'anglicanisme occupe une position à part, intermédiaire, puisque les anglicans, comme vous le savez, se prétendent et se disent toujours catholiques. Si bien que quand on est catholique romain en Angleterre, il faut bien préciser qu'on est catholique romain et pas catholique anglais.
Donc ce sont des catholiques, alors ?
D'une certaine manière, il y a quand même eu un schisme.
Mais le rite, tout à l'heure, quel sera-t-il ?
Alors le rite, pour nous surprenant, il nous paraîtra presque préconciliaire, parce que dans l'Église d'Angleterre, eh bien précisément, il n'y a pas eu d'analogue à Vatican II, donc il n'y a pas eu de réforme liturgique aussi spectaculaire et brutale que celle qui a eu lieu dans l'Église catholique après le Concile. Et donc, disons, les nostalgiques de l'ancienne liturgie seront peut-être comblés.
Il y a un lien, on a l'impression que c'est la grande force de l'Angleterre, ce lien entre classicisme et modernité. C'est une banalité de le dire, ou ça se retrouve, c'est vraiment quelque chose qui caractérise la manière dont l'Angleterre se présente au monde?
Je crois que c'est plus profond que cela, pour essayer de le comprendre. L'Angleterre est un pays non dogmatique, non intellectuel. Si vous voulez, toute sa philosophie, sa constitution, son mode de fonctionnement, eh bien c'est ce qu'on appelle l'empirisme. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'avoir une idée, des idées, des théories dans lesquelles on essaye ensuite de faire tout entrer parce qu'on a la clé de tout, mais qu'on regarde, on construit des théories, on met en place des principes, des institutions, mais sans se dire que c'est définitif. Parce que tout ça doit rester en quelque sorte à l'épreuve du temps et on n'arrête pas d'ajuster. Alors ça, si vous voulez, c'est un petit peu l'esprit. Ça se retrouve, si vous voulez, chez certains philosophes, même du Moyen-Âge, de l'époque où on a construit cette merveilleuse abbaye de Westminster, qui date donc du XIIIe siècle, qui est un ensemble architectural qui n'a pratiquement pas bougé, qui est donc tout à fait remarquable pour cette raison-là. Eh bien, donc, dès le XIIIe siècle, vous avez un philosophe franciscain comme Roger Bacon, Hein, il y a toute une tradition franciscaine aussi du Moyen-Âge, qui est beaucoup moins armée, beaucoup moins structurée intellectuellement que la tradition dominicaine qui a fini par dominer dans l'Église catholique. Et c'est cela qu'on retrouve à Westminster, qu'on retrouvera aussi dans les images qu'on verra de la chapelle de Windsor, avec ce merveilleux gothique anglais. Je ne sais pas si on l'appelle le gothique perpendiculaire.
Le gothique perpendiculaire.
Voilà, c'était, oui, pourquoi ? Parce que, au lieu que les fenêtres soient en ogive très pointue, alors, il y a une croix, une brisée de l'arc. L'arc est brisé, mais il est beaucoup plus haut et l'angle est beaucoup plus ouvert en haut. Et c'est comme ça qu'on appelle le gothique perpendiculaire, qui est caractéristique du gothique anglais.
Donc ça, c'est typiquement ce qui caractérise l'architecture que l'on va pouvoir admirer.
Voilà, que vous admirez. Il y a donc encore plusieurs cathédrales. Alors, il y a l'abbaye de Westminster, qui n'est qu'une abbaye, bien entendu, mais c'est l'abbaye royale. Hein, elle est très bien située, à deux pas du Parlement, hein, à deux pas de Trafalgar Square aussi, à deux pas de Downing Street se trouve le Premier ministre. Le palais de Buckingham est plus loin, de l'autre côté d'un... imaginez à Londres, il y a une espèce de boîte de Boulogne centrale qui est Hyde Park, qui donne un cachet tout à fait particulier à la ville. Donc cette abbaye de Westminster, donc elle est aussi dans ce style perpendiculaire. Mais il y en a aussi beaucoup à Oxford, à Cambridge, dans les villes universitaires.
Londres n'est pas une ville universitaire, c'est assez curieux d'ailleurs, puisque vous dites que l'Angleterre n'est pas un pays intellectuel.
Il y a une université de Londres maintenant, il y en a même plusieurs à Londres, mais il n'y a pas de vieille tradition.
Comment l'expliquer ça ? Alors que c'est le ferment de l'Occident, l'université est née à Bologne, est née à...
Parce que l'Angleterre est un pays principalement qui était moins centralisé à l'origine que la France. Hein, la France, Paris a toujours été absolument dominant. En Angleterre, non, beaucoup de villes qu'on dirait de province en France, mais la notion de province n'existe pas en Angleterre. Il n'y a pas Londres et la province. Il y a Londres et puis d'autres grandes villes.
Quel regard portez-vous ?
Ce qui est partagé, c'est que le primat d'Angleterre n'est pas à Londres, il est à Canterbury.
Oui. Déjà en soi,
même s'il a une résidence à Londres.
Quel regard portez-vous, Jean Duchesne, sur la manière dont depuis plusieurs jours, l'Angleterre aimante les regards, l'attention, les médias du monde entier à travers ce décorum, ce protocole qui ne cesse de se déployer, qui va aujourd'hui connaître son apogée sans doute.
Et parce que l'Angleterre nous invite, l'histoire de la reine, ça nous invite à un certain recul. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la reine a donc régné 70 ans, comme sur les 15 c'est maintenant, mais donc une période de grand changement. Dans cette période de grand changement, elle n'a pas changé. Si bien qu'elle est restée une espèce de point fixe, de repère. Et ceci est extrêmement précieux. Ce qui montre bien que les choses changent et ne changent pas. Quand les choses changent, nous avons tendance à dire que tout change. Et là, au contraire, ce que l'exemple anglais nous dit, c'est que quand les choses changent, certaines changent seulement, mais toutes ne changent pas. Et il y a des permanences. Et ce sont ces permanences qui permettent d'apprécier le changement. Parce que sinon, on est emporté dans le tourbillon, on ne sait plus où on en est. Si on veut savoir à quel point ça change, il faut avoir des points de repère. Il faut que ces points de repère demeurent visibles. C'est ce qui se passe en Angleterre, en grande partie grâce à cet empirisme dont je parlais tout à l'heure et qui nous semble à nous peut-être une forme de paresse intellectuelle.
Il y a une lettre qu'elle a écrite qui ne sera ouverte que dans plusieurs dizaines d'années. Et ça, cette idée de franchir le temps, c'est quand même quelque chose de... C'est un défi aujourd'hui de pouvoir franchir le temps. Tous les politiques essaient de s'y épuiser, de rester dans l'histoire. Et puis, l'oubli arrive très vite.
Voilà. Mais c'est-à-dire que ce qui est remarquable dans la reine, ce qui fait sa position tout à fait exceptionnelle, c'est qu'elle a traversé une époque de grands changements. Alors, en Angleterre, il y a eu des changements considérables. Hein, quand même, ça a été la fin de l'Empire. La décolonisation, ce qu'on appelait aussi le métissage du pays. On se plaint en France du nombre de personnes qui n'ont pas l'air d'être des Français de souche, comme on dit, mais en Angleterre, c'est encore pire, encore plus visible. Parce que ce sont en général pas moins exclusivement chez nous des Nord-Africains, mais beaucoup de gens venus d'Afrique, d'Asie, etc. Donc il y a vraiment un métissage de l'Angleterre. Et puis il y a eu aussi donc cette perte du statut de grande puissance. Et puis cette hésitation devant l'entrée dans l'Europe. La reine donc a traversé tout cela. Elle a traversé tout cela. Je dirais comme tout le monde. c'est-à-dire sans s'y opposer, sans pouvoir s'y opposer, mais aussi sans protester, sans critiquer, sans dire on aurait dû faire comme ça, moi j'avais la solution. Et disons, c'est une attitude à la fois attentive, bienveillante, avec laquelle chacun peut s'identifier. Puis il y a un autre élément qui est très important, c'est qu'elle l'a fait, tout le monde savait qu'elle était là, qu'elle était regardée, qu'elle était célèbre, que c'est moi tout le monde était comme ça, mais qu'en même temps, elle ne l'avait pas cherché, elle ne l'avait pas demandé, elle n'avait piétiné personne pour arriver là, ça lui était tombé dessus. Et elle avait choisi de faire son devoir là où elle était. Et ceci, je crois que c'est la plus grande source d'inspiration, la plus grande source d'admiration pour elle, c'est que, justement, elle, de ce point de vue, elle est un modèle. Elle signifie que là où on est, on n'a pas choisi de l'être, on n'a pas toujours choisi de l'être. Même si on n'a pas d'ambition, eh bien, on a quand même une vocation, un appel et la beauté. Morale, la dignité de la personne, sa grandeur, consiste à faire son devoir, à tenir et aller jusqu'au bout dans la situation où on est.
Et on n'y est pas au dépend des autres.
Voilà.
Ça, c'est un point évidemment qui change avec le monde politique classique. Certains ont dit que c'est son silence qui explique finalement sa notoriété, c'est sa force. Vous partagez ce point de vue ?
Certainement, oui. C'est-à-dire qu'elle n'entre pas dans la mêlée. C'est-à-dire qu'elle est présente sans être, partie prenante, sans être partiale.
Mais par exemple, Jean Duchesne, l'union de personnes de même sexe, elle aurait pu s'y opposer en 2013.
Ça l'empêche pas. Elle est tellement observée qu'on ne peut pas s'empêcher de deviner ce qu'elle pense, même si elle ne peut pas le dire. Alors, il est certain que, par exemple, on peut supposer qu'elle était plutôt européenne et qu'elle n'était pas pour le Brexit. Elle est aussi pour l'union entre les quatre nations qui composent le Royaume-Uni. Hein. Il y a l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et puis l'Irlande, maintenant réduite à l'Irlande du Nord. Donc, elle est pour cette unité. Elle était aussi, je pense, assez européenne. Hein. Elle, quand même, c'est quelqu'un qui parlait très bien français. Et qui se débrouillait aussi en allemand. Après tout, les Windsor ne s'appellent Windsor que depuis la Première Guerre mondiale. Avant, c'était des familles allemandes, hein, la dynastie des Hanon. Donc, c'était quelqu'un qui était européen. Et disons, sur les questions de morale...
Comme nous le disait un précédent invité, le prénom Philippe est venu par Anne de Kiev, figurez-vous, voilà. Qui a popularisé ce prénom jusque dans les dynasties de l'Ouest européen. D'un point de vue moral ?
Alors, d'un point de vue moral, disons qu'elle est restée extrêmement classique. C'est-à-dire qu'elle pense que la survie même de l'humanité réside dans l'union de l'homme et de la femme et dans leur capacité, non pas seulement à faire, mais encore à élever, à éduquer et à aimer des enfants.
Est-ce qu'on sait si elle a écrit des mémoires ?
Alors là, je ne sais pas.
Le saura-t-on un jour ? Est-ce qu'elle a le droit, justement ? Est-ce qu'elle a le droit, post-mortem, de dire ce qu'elle a pensé de son règne ?
Je ne sais pas si elle a été... Ça, c'est quelque chose qu'elle aurait peut-être pu apprendre. Ce sont des choses qui font partie de la culture, plus exactement de la culture qui est donnée dans l'éducation. Et je ne suis pas assez informé sur l'éducation qu'elle a reçue pour savoir si on lui a donné, si on l'a incité à lire au point de lui donner l'envie d'écrire.
Le Royaume-Uni risque-t-il, Jean Duchesne, d'éclater à présent qu'elle n'est plus là, puisqu'elle constituait peut-être ce ciment de cette mosaïque ? Et d'ailleurs, ce terme un petit peu curieux de Royaume-Uni au singulier, puisqu'on unit des parties qui normalement ne le sont pas. Donc ce jeu entre l'unité et la diversité, est-ce qu'aujourd'hui il est menacé comme l'est le Commonwealth ?
Il l'a toujours été. Ce n'est pas nouveau. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni date seulement de 1800 à peu près.
Et même la dernière forme, c'est 1922, centenaire.
Oui, il y a toujours des changements et des réformes. Donc, il peut évoluer, il peut disparaître. Vous savez, après tout, l'intégration du Pays de Galles à l'Angleterre, enfin, l'union du Pays de Galles à l'Angleterre, date seulement du XIIIe siècle. Hein, c'est le but de Westminster. Sur 2000 ans d'histoire, ça fait un gros tiers, quoi, à peine. L'union avec l'Écosse, comme vous le savez, date du tout début du XVIIe siècle. Bon, l'Irlande a toujours été un autre pays. Il n'y a jamais eu de roi au Pays de Galles, d'ailleurs. Hein. Donc, simplement, c'est le Pays de Galles est réuni à la couronne. Il n'y a jamais eu de roi d'Irlande non plus. sauf quand le roi d'Angleterre s'est proclamé roi d'Irlande. Tout ça est extrêmement fluctuant. Ça peut changer, ça peut bouger.
C'est l'Écosse qui va bouger en premier ou qui bougerait en premier ?
C'est vraisemblable. C'est en Écosse, en tout cas, que les tentations d'autonomie, plus que vraiment que d'indépendance, sont fortes.
Que gagnerait l'Écosse à quitter le Royaume-Uni ?
Le simple fait de ne pas être, sous tutelle de Londres, d'avoir une certaine autonomie. Et de fait, enfin, il faut bien voir qu'il y a la différence, elle est culturelle et en partie ethnique.
Hein, ce qu'il faut bien... Entre les Écossais et les Anglais.
Bien sûr. Hein, l'Angleterre, si vous voulez, c'est la partie la plus riche des îles britanniques, de la plus grande île, le sud. Et c'est la partie qui a été envahie pendant le premier millénaire, à plusieurs reprises. Hein, d'abord par les Celtes, qui n'ont pas toujours été là, puis par les Romains, puis par les Saxons, puis par les Scandinaves, puis par les Normands francisés. Donc ça, c'est la partie qui a été où la population est le plus mélangée. Au contraire, les parties plus ingrates, plus montagneuses, moins agricoles, moins riches, donc le Pays de Galles, à l'ouest, une région montagneuse, un petit peu comme les Vosges chez nous, pour donner une idée des propos. Puis l'Écosse au nord, donc c'était moins riche, donc ça intéressait moins. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez donc une histoire longue qui est certainement différente.
Mais justement, ces régions plus pauvres auraient un intérêt. Elles ont sans doute eu aussi un intérêt à se rattacher à une région riche. Pilotes qui aussi permettent peut-être de redistribuer. Est-ce qu'il y a aucun intérêt en fait financier tout simplement à être dans le Royaume-Uni ?
Ben, ça dépend, si vous voulez, du fonctionnement des structures. Est-ce qu'elles ont intérêt à être... On connaît les mêmes tentations en France. Est-ce que tout doit être centralisé ou est-ce qu'il faut régionaliser ? Hein, c'est en France et en Europe. Donc, au 19e siècle, si vous voulez, il est certain que l'industrialisation a favorisé une centralisation. Aujourd'hui, l'évolution des technologies fait que cette centralisation est moins rentable, non seulement au niveau purement technique et économique, mais également au niveau culturel, au niveau des identités locales. Parce que la communication... paradoxalement, favorise la multiplication des pôles et non pas la centralisation.
Donc l'avenir est plutôt à cette autonomie des territoires en réalité, et peut-être cette concurrence entre les territoires aussi.
C'est pas vraiment une concurrence, c'est vraiment le fait qu'il s'agit de mondes, hein, d'univers différents. Et l'Angleterre est beaucoup plus a toujours été beaucoup plus multipolaire que la France. Si vous voulez, en Angleterre, par exemple, vous avez Londres, bien sûr, mais vous avez aussi des métropoles importantes comme le Yorkshire, comme Manchester, comme les Midlands, qui sont aussi des centres économiques. Donc, l'Angleterre elle-même est déjà multipolaire.
Écosse, Angleterre, Marie Stuart, catholicisme, anglicanisme, est-ce qu'il y a une articulation entre les deux aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore pertinent comme clivage ?
Non, l'Écosse a basculé dans le protestantisme calviniste aujourd'hui, hein, avec John Knox. Il y a une église catholique en Angleterre, mais elle est, elle est minoritaire.
Pourquoi n'a-t-elle pas subsisté ?
Non, mais ceci dit, il se passe en Écosse ce qui se passe partout ailleurs, hein, qui est une sécularisation à marche forcée.
Donc là, l'Angleterre ne se distingue pas particulièrement d'autres régions du monde dans son rapport aux religieux. En tout cas, on aurait pu imaginer que l'identité écossaise fut plus ancrée dans un catholicisme, dans une sorte de catholicisme un peu culturel.
Je n'en ai pas l'impression. Hein. Les grandes universités écossaises, qu'il faut bien voir le rôle que jouent les universités, ne sont pas spécialement marquées par le catholicisme. Même s'il y a des catholiques qui sont présents, s'il y a des centres Newman, comme on appelle les aumôneries dans les universités, le catholicisme n'est pas dominant dans les universités anglaises.
Alors justement, John Henry Newman, et puis on fera aussi un zoom une prochaine fois sur Hilaire Belloc, certaines figures qui sont peu connues en France. Newman est certes connu, Hilaire Belloc l'est beaucoup moins, et qui constitue cette communauté catholique outre-Manche, qui se caractérise par rapport à la nôtre, Jean Duchesne, sur quel point ?
Ah ben disons que c'est un mouvement minoritaire. Et avec donc une identité catholique beaucoup plus forte. En France, vous voyez, traditionnellement, jusqu'au milieu du XXe siècle, catholique et français, c'est pratiquement inséparable. On ne peut pas enlever le « et ». Alors que en anglais, c'est en Angleterre ou au Royaume-Uni, c'est britannique et catholique, qui est cette fois-ci non pas une précision, mais une particularité dans un ensemble plus vaste. Alors ceci dit, le catholicisme a joué un rôle important, comme aussi d'ailleurs la religion anglicane. Hein. Et ce qui est caractéristique, par exemple, c'est ce qu'on ignore, hein, par exemple, c'est la sympathie d'un auteur comme Agatha Christie. Hein, on pourrait parler des relations d'Agatha Christie avec le catholicisme. Hein. Son mari était catholique, mais pour l'épouser, elle exigeait qu'il se fasse anglican. Néanmoins, elle était, comme on dit, anglo-catholique. Et on sait que, par exemple, c'est elle qui a obtenu que le rite ancien de la messe de Pessis puisse continuer à être célébré en Angleterre. Hein, elle a signé une pétition dans les années 70, demandant que le rite ancien continue à être autorisé en Angleterre. Et il paraît que, lorsque Paul VI a vu la liste des prestigieux signataires, tous ces noms-là de célébrités britanniques ou londoniennes ne lui disaient rien, mais il a vu le nom d'Agatha Christie. Et c'est cela qu'il a décidé à accorder cet indulte permettant de... Donc il y a quelque chose de vraiment de très proche entre l'anglo-catholicisme et le catholicisme. D'ailleurs, ceux qui suivront les obsèques de la reine à la télévision verront que les vêtements liturgiques, le style des liturgies ressemble beaucoup au souvenir que nous avons gardé de l'ère préconciliaire dans l'Église catholique romaine.
Y a-t-il une allégeance des catholiques anglais à la couronne ?
Ah, bien sûr. Bien sûr, depuis le 16e siècle...
En dépit d'un regard critique sur l'Angleterre, qui peut aussi exister ?
Oui, mais
enfin, sur la couronne, sur la
monarchie. Ce regard critique est toujours à la fois consolidé et nuancé par l'esprit empirique. C'est-à-dire qu'on se réfère à des traditions sans considérer qu'elles sont fixées, ni qu'elles reposent sur des théories intemporelles. Et donc, ça donne à la fois une certaine souplesse et en même temps un certain point de repère et donc une capacité à conserver les traditions, mais sans crispation.
C'est l'image vraiment de l'esprit maritime, hein, finalement, le vaisseau qui arrive à se déplacer, à être un flux et puis à voir selon les courants. Mm-hmm. C'est ça, alors que l'esprit terrien résonne différemment. C'est peut-être vraiment ce qui nous sépare d'un côté et de l'autre de la Manche, non, Jean Duchesne,
hein? C'est un petit peu, on peut comparer à l'Angleterre. Vous avez des Bretons de l'intérieur.
Oui.
qui sont de vrais paysans, qui n'ont rien à voir avec la mer, qui sont perdus dès qu'on les met sur un bateau. Puis vous avez des Bretons maritimes. Alors en Angleterre, vous avez une plus grande échelle, vous avez un petit peu la même chose. Je crois que le fait que la Grande-Bretagne soit une île, est intéressant, mais c'est un des traits, ce n'est pas le trait déterminant, ce n'est pas le trait suffisant pour tout expliquer et tout comprendre.
Merci beaucoup Jean Duchesne d'avoir été avec nous. À quelques heures donc des funérailles de la reine Elisabeth II, vous êtes l'auteur de Petite histoire d'anglo-saxonie. C'était paru aux presses de la Renaissance. Et puis je rappelle que vous avez longtemps enseigné en classe préparatoire. Et puis la revue Communio, c'est le 50e anniversaire. Ça sera au mois d'octobre. Merci d'avoir été des nôtres, Jean Duchesne.